médiatiquement, les années 70 ne se sont jamais aussi bien portées. Une vague de nostalgie envahit la pop culture, des rétrospectives en encyclopédie, en passant par des suites originales. Les dessins animés et séries de notre enfance font l'objet de plusieurs projets d'édition qui sortent simultanément. Goldorak, Albator ou encore Hélène et les garçons, ça se bouscule dans les librairies et dans les kiosques. Alors pourquoi la nostalgie télé fait-elle vendre? On en parle avec nos invités. Bonjour Xavier Dorizon.
Bonjour.
Vous êtes le co-scénariste de la bande dessinée Goldorak, publiée aux éditions Cana il y a 3 semaines, et c'est l'un des succès surprises de l'automne. On peut le quantifier, ça marche plus que bien.
Je viens d'apprendre qu'on était 2e meilleure vente de livres en France.
Derrière donc, Astérix.
Derrière Astérix, bien sûr.
Et pas de BD, de livre tout court, puisque la BD est le genre qui se vend le plus en France. Alexandre Avelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à toute la télé, vous êtes l'auteur de ce livre, Génération AB, publié aux éditions
Guinée-Ménine.
En ligne avec nous, Cédric Litardi, bonjour.
Bonjour.
Vous-même, Cédric, vous êtes directeur de la publication d'Animeland, le premier magazine de l'animation japonaise, et vous sortez un hors-série Encyclopédie des animaux. D'abord, Alexandre Ravelot et Xavier Dorizon, comment vous expliquez cette nostalgie de la télévision ?
Parce que la télévision, c'était le meuble de notre enfance. On regardait tous la télévision et on a un bain de mousse chaud, on se plonge dans cette émotion qui nous envahissait, on regardait la télé avec son frère, sa mère, ses frangins, ses cousins, ses cousines, et la télévision c'est plus que c'était, c'est-à-dire c'est une niche maintenant, c'est un autre média.
Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
Oui, bien sûr qu'il y a ça, et puis alors plus particulièrement pour Goldorak, ça a été la première grande série de dessins animés qui finalement parlait aux enfants comme s'ils étaient des adultes.
Ah oui ?
Bah quand même.
J'ai pas perçu ça. Alors pour tout vous dire, moi j'ai échappé à Goldorak parce qu'étant né en 62, j'avais déjà la vingtaine quand Goldorak était à la télévision. Comment ça parlait aux enfants comme à des adultes ?
Mais en fait, ça leur parlait d'amour, de trahison, de violence. Ça posait des choix tragiques pour les personnages. Et puis bien entendu, ça leur permettait de s'évader. Donc on passait de L'île aux enfants ou de Bonne nuit les petits à des grandes séries de combats dans l'espace. Ça faisait rêver.
C'est peut-être ce qui avait déplu à Ségolène Royal, je me souviens, qui trouvait que le programme était trop violent et qui avait parlé de le faire interdire. Est-ce que ceci explique cela, cette violence dans Goldorak ?
Elle avait déjà parlé à l'époque de faire interdire. Goldorak, en fait, et finalement montre de l'action, ce qui n'est pas exactement de la violence, mais surtout, on traite souvent les conséquences. Et je pense que les enfants s'en rendaient compte.
On vient de me dire dans l'oreillette que j'ai confondu Goldorak et Dragon Ball.
Ken le survivant.
Exactement. Merci beaucoup de ces précisions. Cédric Litardi, on parle souvent d'une nostalgie liée à des programmes télé liés aux souvenirs d'enfance. Vous voyez que mes souvenirs sont flottants. Pour quelle raison ? Non pas qu'ils soient flottants, mais pourquoi cette nostalgie ?
C'est la Madeleine de Proust, hein, on n'a rien inventé. Le fait est que la télévision, à l'époque, c'était très peu de chaînes, donc tout le monde regardait la même chose. Tout le monde était fasciné, il n'y avait pas la diversité de l'offre d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'au final, les séries de l'époque sont restées gravées dans la tête des gens qui les ont regardées. Hein. Évidemment, quand on ne les a pas vues, c'est un peu bizarre, mais Xavier et moi, on fait partie de la même génération, on a tous les deux vu Goldorak très jeune. Et avec Goldorak, on a eu l'impression qu'on arrêtait de nous prendre pour des imbéciles et qu'on nous proposait enfin quelque chose qu'on était capable de comprendre. Parce que les adultes, ils ont tendance à penser que les enfants, ils comprennent pas certaines choses. C'est logique. Mais en même temps, ils sont beaucoup plus sensibles. On veut bien leur faire croire. Et c'est ça c'est cette nostalgie qui a donné naissance à des gens qui, pendant des années, ont suivi, par exemple, l'animation japonaise, puisqu'on parle d'animation japonaise. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui, des jeunes qui regardent du manga et de l'animation japonaise, etc., ils savent pas d'où on vient, ils n'ont pas vu Goldorak, etc. Et puis ceux qui sont trop vieux pour avoir vu Goldorak, ils comprennent pas du tout comment ça marche.
Ouais. Hier soir, on parle pas d'un passé lointain, on parle d'un passé très, très, très récent. Hier soir, si vous allumiez votre télévision à 18h45 sur TMC, vous pouviez tomber sur ceci.
Allez, je peux essayer une fois.
Ah non, alors surtout pas. Manola a essayé, c'était une catastrophe.
Oui, c'est vrai, je m'en souviens, mais elle a sauté sur Peter. C'était drôle.
T'es sûr qu'Ingrid n'en a pas pris ?
Parce que t'avais avec Dorian.
Bah, c'est vrai, j'ai pas compris pourquoi ils étaient partis comme ça.
Bah, Hélène, à ton avis ?
Ah oui, qui est avec qui ? Ce sont les mystères de l'amour, série qui est l'une des suites de la sitcom des années 90, Hélène et les garçons. Et si vous passiez un peu plus tard sur France 4, 19h30, vous tombiez sur ceci.
Commandant à escadrille, à vous de jouer. Plongée immédiate. Dès que vous aurez fait le plein, émergation et retour à la base. Vous laisserez Golgoth s'occuper de Goldorak.
Ça fait sourire évidemment Xavier Dorizon, c'est Goldorak diffusé sur le service public en 2021 qui l'eut cru Alexandre Avelot. Il n'y a pas que les Français qui sont nostalgiques, il y a aussi les patrons de programme.
Ah, exactement. Non, mais Hélène et les garçons, l'émissaire de l'amour, c'est la plus longue histoire de la télévision, la plus grande saga. Vous vous rendez compte? Ça fait 25 ans, 30 ans l'année prochaine,
ouais,
Hélène et les garçons. 30 ans. C'est extraordinaire. C'est des centaines d'épisodes, des centaines d'histoires d'amour, des centaines de personnes qui disparaissent, qui réapparaissent. Et on aime ça. Et les Français sont fans.
Alors, si France 4 diffuse de nouveau Goldorak, également, on peut le voir sur la plateforme Hoku, c'est qu'on célèbre un anniversaire. C'est le 45e anniversaire du super-héros, du super-robot, je ne sais pas comment vous l'appellerez. Anniversaire célébré par cette bande dessinée qui est la suite des aventures d'Actarus. Xavier Dorizon, vous en êtes le co-scénariste. Quelle est la genèse de ce projet ?
La genèse de ce projet, c'est en fait une rencontre entre une éditrice qui s'appelle Crystal Nolan, qui avait ouvert toutes les portes, on va dire, du dessin animé au Japon et du manga, c'est-à-dire qui avait permis de créer ces ponts qui nous manquaient pour atteindre les grands créateurs de manga. Et rencontre avec elle un jour lors d'un déjeuner où moi j'évoque l'idée folle comme ça de faire un Goldorak, mais par pur plaisir, et elle qui me prend au mot. Et qui me dit qu'elle a travaillé depuis des années, qu'elle sait qu'elle peut rendre l'aventure possible.
Parce qu'il faut expliquer, pour faire une BD comme ça, il faut l'autorisation des ayants droit. On ne peut pas la faire ex nihilo.
Mais bien sûr que non, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu 74 épisodes de Goldorak qui ont été faits. Et le créateur s'appelle Go Nagai. Et en fait, entre la fin de 1978 et aujourd'hui, il n'y a plus rien eu de Goldorak.
Il a quel âge, Go Nagai?
Je saurais pas vous dire, mais il est tout jeune.
Il a 76 ans.
Bon, voilà,
je pensais que
76
vous
ans.
Voilà.
Pas par cœur. Non, voilà. Pas par
il est pas
cœur.
Si vieux d'ailleurs, 76 ouais. ans.
Non.
Et il fait plus rien. Mais
non,
il fallait son autorisation.
Non. Et il faut son autorisation. Et donc, nous, notre rêve, c'est simple. C'était de créer le 75e épisode.
Comment avez-vous fait?
Eh bien, on a remis à Christelle une note d'intention, un dossier, un scénario, des planches dessinées par Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santenac. On a remis un projet complet. Et là, il s'est passé un truc de dingue.
Il a dit
c'est
oui.
qu'une semaine après, ce qui est un délai stratosphérique pour des Japonais, il a dit oui. Il a dit « J'adore votre idée, faites le dernier épisode de Goldorak ».
Vous lui avez écrit une lettre, traduite évidemment en japonais, qu'il a lu en japonais.
Ouais.
Le livre sort, c'est un projet mondial ou c'est un projet français? Est-ce qu'il y aura une sortie mondiale de ce Goldorak?
Alors, il y aura une sortie dans beaucoup de pays. En fait, dans les pays qui ont connu Goldorak. C'est-à-dire, il y a l'Italie notamment, qui était comme la France, un pays
J'ai mal
Goldorak.
Posé la question. Vous avez les droits pour le monde entier, pour cette série?
Quasiment, oui. Quasiment pour le monde entier, ouais.
Et est-ce que ça va sortir au Japon?
Alors, on ne sait pas. Sachant que, curieusement, Goldorak, c'est d'abord une aventure française. Eh oui. Goldorak, ça n'intéresse personne au Japon.
Comment ça se fait?
C'est simple. Le Alcor, que tout le monde connaît, bien sûr, en France, était le héros de deux séries avant Goldorak, qui s'appelait Mazinger et Mazinger Z. Et quand les Japonais ont vu que chez nous, série française, que dans Goldorak, c'était devenu un faire-valoir, ils n'ont pas aimé. Moyennant quoi, ils ont boudé Goldorak. Et par contre, Goldorak, ça a été une folie française.
Voilà.
Et moi, j'aime pas Alcor.
C'est vrai?
Ah, je l'aime, c'est le moins.
Vous savez quoi? On reste sur cet avis négatif. Culture Média continue, on marque une pause et on revient. À tout de suite.
Philippe Bordel.
On parle de la nostalgie télé des séries des années 70, des séries pas seulement, de Goldorak. C'était pas tout à fait une série, c'était un dessin animé. Et on va revenir sur ce hors-série d'Animeland. C'est une encyclopédie des animés. On disait pas animé à l'époque, qui retrace les années 63 à 79. On va vous rafraîchir la mémoire avec un medley de génériques.
On pleure,
J'avais complètement oublié le générique de Calimero, je reconnais.
Complètement.
Je me souviens juste que c'était trop injuste, mais voilà, en tout cas, j'ai noté, Alexandre Ravelot, que vous chantiez le générique d'Heidi. Nostalgie dans les maisons d'édition à la télévision, sur Europe 1 ce matin, Capitaine Flamme, Albator, Candy, Heidi, Calimero, Cédric Littardi. Pourquoi sortir cette encyclopédie de ces vieux dessins animés, la sortir en 2021 ?
Alors, en fait, c'est le premier volume d'une série qui va reprendre toute l'histoire de l'animation japonaise. Alors maintenant, pourquoi le sortir en 2021 ? C'est une date importante pour nous, parce que c'est le 30e anniversaire de Animeland. Ça fait depuis 30 ans que c'est un petit fanzine qu'on avait fondé, et puis que c'est devenu un magazine, et puis etc. Et quand on l'a fondé, c'était pour permettre aux gens de découvrir l'animation japonaise là où il n'existait rien. Aujourd'hui, j'estime que c'est nécessaire de revenir sur l'histoire de l'animation japonaise, justement parce que beaucoup la regardent, en parlent, lisent des mangas, mais ne savent pas, ne connaissent pas du tout les bases, en fait, puisqu'on est trop loin dans
le futur. Bien sûr.
Et puis aussi, on a des biais. Alors, on disait tout à l'heure que Goldorak, c'était connu qu'en France. Alors pourquoi Goldorak c'est connu qu'en France, en Italie, en France, enfin dans certains pays ? Parce que c'est la première série de robots, enfin ou la série d'animation japonaise, ou la série d'action, ou la série avec des thèmes matures qui a été diffusée là-bas. Et donc, en tout cas, pour les robots, ça a révolutionné le genre, ça a créé quelque chose. Et par la suite, quand en France on a diffusé Mazinger, ça intéressait beaucoup moins les gens, parce que c'était beaucoup moins révolutionnaire. Donc c'est pour cette raison aussi que le Japon, Mazinger est connu. Mais nous, par exemple, sur les robots, on sait que c'est un genre très connu au Japon, mais on n'a eu que Goldorak. C'est-à-dire que toutes les séries qui ont révolutionné le robot géant, le style robot géant par la suite, comme Gundam, comme Macross, on ne les a pas vus.
Si, il y a Robotech quand même, je ne suis pas d'accord, il y a Robotech.
Tout à fait.
Il y a Robotech d'Alexandre Gravelot qui ne laisse rien passer. Une chose, quel est votre public ? Est-ce sont des gens qui sont nostalgiques, qui regardaient ces dessins animés quand ils avaient 10 ans et qui maintenant en ont 40 et achètent votre magazine ? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui ne les a pas découverts à l'époque, puisqu'elle est née évidemment plus tard ?
Il y a tout. C'est étrangement, si on regarde les statistiques qu'on a sur les abonnés, c'est étrangement réparti. On a des lecteurs, on a autant de lecteurs qui ont 45 ans que de lecteurs qui en ont 30.
Autant de parents que d'enfants. Tout à fait autre chose. Quoique Dorothée et son club Dorothée, produit par AB Productions, c'est le sujet de votre livre, Alexandre Ravelot, Génération AB. C'était chez Dorothée qu'on voyait beaucoup de dessins animés.
Énormément de dessins animés, tous les dessins animés, un jour ou l'autre.
Comment est-ce que vous avez imaginé ce livre qui ressemblait aussi à une encyclopédie ?
Tout simplement parce que j'aime bien les histoires de coulisses et savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a la nostalgie, mais on a envie de savoir ce qui s'est passé derrière. Et il y a eu beaucoup de documentaires télé, mais ça va trop vite. Alors il faut un livre pour aller au fond des choses et tout raconter, tout savoir sur Dorothée et ses amis.
Comment vous expliquez ce succès auprès du public ?
C'est un succès parce que ça touche les sentiments des gens. Moi, à mon époque où il y avait premier baiser, j'avais 9 ans. C'était la première fois que je voyais des gens qui s'embrassaient de mon âge, enfin de mon âge d'adolescent. Donc, c'était des histoires pour nous. C'était des histoires pour nous. Et c'est ça, la télé, c'était formidable. C'était des histoires pour tout le public, toute la famille.
En 97, vous voulez dire quelque chose ? Non, en 97, le club Dorothée s'arrête. Et du coup, c'est la mort de cet écosystème. Il se passe quoi ? Vous êtes orphelin ?
On est complètement orphelin parce qu'après, c'est des images de synthèse qui nous parlent de dessins animés à longueur de journée. Mais c'est aussi une époque. Dorothée, ça n'allait pas durer pendant encore 10 ans. C'est la fin d'une époque. C'est normal aussi que ça s'arrête.
Cédric Littardi, il y a aussi un autre hit, je vais arriver à le dire, côté dessin animé qui a repris en 2015, c'est Dragon Ball, devenu Dragon Ball Super. Là aussi, même question, je ne vais pas demander pourquoi ça marche, je vous l'avais expliqué, mais on ne peut pas lancer de nouvelles marques ? C'est trop puissant comme marque ?
Alors aujourd'hui, mais ça c'est un phénomène qui touche tout le monde, c'est que le coût de lancement de nouvelles marques est tel, et le fractionnement de l'audience sont telles que c'est très difficile de lancer des nouvelles marques. Ça existe, mais on voit bien que ce soit Hollywood, que ce soit au Japon, que ce soit partout, il y a une valeur de la nostalgie parce que on est sûr que c'est connu. On est sûr que c'est déjà connu. On n'a pas besoin d'aller chercher des gens, de les convaincre que c'est quelque chose de nouveau et de puissant, etc. Et ça, c'est autant une force qu'une faiblesse. C'est-à-dire que
On fait plus de Paris, mais il y a quand même des choses comme Miraculous, par exemple, qui est formidable en dessin animé. C'est une marque et ça fonctionne partout dans le monde. Enfin, ouais. C'est une super marque.
Non, mais il y a une nouvelle. C'est vrai qu'il y a un marché de la licence aujourd'hui qui fait que, par exemple, en bande dessinée, vous avez des tables de nouveautés qui sont déjà prises par toutes les licences qui existent de il y a longtemps, entre guillemets. Ça peut être 13, Largo Winch ou voilà. Donc, forcément, pour les nouveaux venus, il y a moins de place.
Largo Winch qui revient, Astérix qui revient évidemment. Vous m'avez trouvé la dernière question. Est-ce qu'il y aura un Goldorak 2, Xavier Dorizon?
Ben là, on a vraiment réalisé pour nous notre dernière aventure, le rêve qu'on avait étant gamin. Mmh. Donc j'ai envie de dire non.
Il y a un épisode, l'épisode de l'animé. Voilà.
Et je vais dire quelque chose qu'on en parle beaucoup ici, mais pour les médias, il y a un problème de... Bon, on trouve pas tous les albums qu'on voudrait, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement de papier.
Et oui, c'est la crise post-Covid, on manque de papier et de carton, donc il y a des libraires qui manquent un peu de Goldorak, mais il y a toujours un autre libraire ou un autre voisin qui en a.
Merci beaucoup Xavier Dorizon, je vais raconter tout ça. La BD Goldorak, disponible aux éditions Cana. Cédric Litardi, on retrouve votre hors-série d'Animeland, l'encyclopédie des animés, c'est en kiosque. Et puis Alexandre Ravelot, votre livre Génération AB est disponible aux éditions, vous le prononcez bien mieux que moi,
Huggin et Menin.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans